et à tous et bienvenue dans cette matinale du vendredi 30 mars 2012. Au sommaire, une chemise à rayures pleine de graines. Laurent Réversat, paysan et membre de la Confédération Paysanne, nous parlera de la nouvelle loi sur la taxation des semences de ferme et nous présentera la soirée organisée ce soir à ce sujet à la Chambre d'Agriculture de Rodez. Pierre finale de la série des intervenants d'Alternabio qui a lieu ce dimanche à Sainte-Afrique, nous vous présenterons Nicolas Supiot, paysan boulanger depuis 18 ans et passionné de variétés anciennes ainsi que du respect du vivant. Puis la chronique du jour promet d'être spontanée et joyeuse puisqu'Annie ne manquera pas de nous faire son cinéma. Mais avant toute chose, un CD de la semaine que vous allez certainement reconnaître puisqu'il s'agit de l'album Récréation, que des reprises de Nougaro, Maestro Music.
Je suis un petit taureau, mais moi, c'est pas pareil. Je suis un petit taureau, mais moi, en plein soleil, j'entrerai dans l'arène, des abeilles. Je suis sans doute un animal doué de pouvoirs anormaux. Je peux échapper au mal en jouant avec les mots. Plus taureau, tonneau de sang vermeil. Je n'aurai plus au garrot ce collier de groseille. J'entrerai dans l'arène des abeilles. À partir de nos épousailles, la morale va basculer, la reine va crier aïe et moi je dirai olé. Je la matadorerai avec mon appareil, un bourdonnement doré emplira vos oreilles. Quand j'entrerai dans la reine, dans la sous une pluie de
la chemise à rayures.
Info, invité, reportage
sur Radio Sainte-Afrique.
Ce soir, un moment d'information et d'échange sur les taxations de semences de ferme vous est proposé à la Chambre d'Agriculture de Rodez à 20h30. Cette soirée est organisée par la Confédération Paysanne pour présenter les jeux de cette loi. Laurent Réversat, paysan et membre de la Confédération Paysanne, nous fait un topo sur ces nouvelles taxations.
Donc, le 28 novembre 2011 a été adopté à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à réglementer l'utilisation des semences de ferme. Ce projet de loi a été adopté par un vote de groupe, donc on est vraiment à l'extrême limite de la démocratie, c'est-à-dire que le groupe UMP est en majoritaire, ils ont levé leur petit panneau, ils ont dit majoritaire, hop, la loi est adoptée. savais pas que ça existait, moi, mais voilà, c'est comme ça. Et il y a de fortes chances que si ça avait été un vote individuel des députés, ça ne soit pas passé, puisque, en fait, on a des oppositions à cette loi, y compris dans les rangs de l'actuelle majorité. Voilà, cette loi, officiellement, vise à réglementer donc l'utilisation des semences de ferme, c'est-à-dire vise à réglementer l'utilisation par les paysans des semences qu'ils récoltent en vue de ressemer sur leurs champs. Réglementer, ça veut dire taxer, en gros. Et là, on touche le fond, c'est-à-dire que les semenciers, en initiant cette loi, qui est une transcription d'une directive européenne en droit français, directive qui date de 1994, donc il n'y avait pas d'urgence, hein, on avait déjà 16 ans de retard. Donc, cette loi permet de dire, pour tout utilisateur de semences de ferme qui souhaite ressemer sa semence, eh bien, on va le taxer pour 22 espèces cultivées.
22 espèces sont donc concernées par cette nouvelle taxation. Parmi elles, on retrouve donc principalement les semences agricoles, mais aussi les semences potagères. Comme il ne sera pas possible de savoir exactement combien de quantités seront réutilisées par les paysans pour être ressemées, quelles seront les semences de ferme, les semences paysannes et traditionnelles, il est possible que tout doucement nous acheminons vers une taxation sur toutes les surfaces, soit une rente des situations pour les semenciers qui toucheraient des royalties sur toutes les surfaces que les paysans cultiveraient. Cette façon de s'approprier les semences se rapprocherait du brevetage du vivant.
C'est une autre façon, c'est-à-dire que les semenciers européens ne sont pas contents du tout parce qu'en Europe, on n'a pas le droit de breveter le vivant. On a, pour protéger des variétés végétales, des certificats d'obtention végétale sur le modèle français en fait, de l'après-guerre. Et le certificat d'obtention végétale ne protège que la variété, la variété lorsqu'elle est commercialisée par le semencier. Elle n'est pas protégée au-delà, c'est-à-dire que le semencier ne reste pas propriétaire des gènes. Donc, il y a plusieurs techniques pour se protéger. Par exemple, le dépôt de brevets sur des modifications génétiques, d'où les enjeux sur les OGM, et il y a une autre possibilité qui a été essayée dans les années 80, qui était d'utiliser les OGM pour faire des semences stériles. C'est-à-dire que, on vendait de la semence et puis on était obligé de racheter, le paysan était obligé de racheter la semence tous les ans puisque les graines générées par cette semence-là étaient stériles, n'étaient pas utilisables. Donc ça, l'Europe l'a refusé. Ça s'appelait le gène Terminator, c'est très très sympa, on sent bien quand même le côté belliqueux de la chose. C'était donc le gène Terminator, il a été refusé, les OGM ça n'avance pas comme les semenciers le souhaiteraient, nous en sommes ravis évidemment. Donc le dernier angle d'attaque c'était d'essayer de faire rapprocher le certificat d'obtention végétale du brevet anglo-saxon à la mode américaine. C'est-à-dire qu'aux États-Unis on a le droit de breveter du vivant. Voilà. Alors, il y a deux problèmes, en fait, qui se posent, deux enjeux, pardon, qui sont pour les semenciers. C'est un, se créer une rente de situation en disant, on va récupérer une petite taxe. Plus la taxe est petite et sur tous les hectares, et plus elle est acceptable par les paysans. On va récupérer une petite taxe qui va nous faire un petit fonds de commerce bien sympa, d'une part. Et d'autre part, c'était accroître un peu leur compétitivité sur le marché mondial face aux semenciers anglo-saxons. Voilà. Face à ça, nous ce qu'on dit, on dit plusieurs choses. Nous, à la Confédération Paysanne, dans le réseau Semences Paysannes notamment, aussi, on dit les décrets ne sont pas encore appliqués, les décrets d'application de la loi ne sont pas encore parus, donc c'est vraiment le moment de faire pression, parce que effectivement, en fonction des décrets, on peut avoir des résultats différents sur le terrain. Ensuite, on est quand même en période d'élection présidentielle. Donc, s'il y a un changement de majorité, on doit pouvoir obtenir l'abrogation de la loi. Aujourd'hui, le PS s'y est engagé, Europe Écologie évidemment également. Le Modem était contre, le Front de Gauche est contre. Enfin bon, à part l'UMP, il n'y a pas grand monde qui soutient cette histoire. Donc, on peut espérer l'abrogation de la loi. Et puis on justifie aussi ça en disant, mais enfin, les semenciers sont de magnifiques libéraux. Donc, ils doivent savoir comment fonctionne un marché, c'est-à-dire que si leur produit est conforme aux attentes du marché, ils peuvent le vendre à son prix en incluant le coût du développement, puisque leur argument, c'est qu'il faut bien payer la recherche. Donc, ils incluent dans le prix de leur semence commerciale le coût du développement. Et si leurs semences sont si bonnes que ça, même si elles sont beaucoup plus chères, ils trouveront toujours des paysans pour les acheter. Donc il n'y a pas de raison de faire intervenir la loi là-dedans. C'est pas du tout libéral, c'est anticoncurrentiel, c'est la création d'un monopole, c'est voilà, ça c'est à leur encontre. Et puis, alors on peut prendre un autre angle, qui est celui du paysan, qui nous intéresse souvent, et on peut dire aussi que on est quand même à l'origine de la sélection, que donc le matériel végétal, comme ils appellent, c'est quelque chose qui nous appartient à l'origine. Et c'est rigolo, parce que dans cette loi sur les semences, il est prévu qu'elle est utilisable gratuitement si c'est en vue de développer une nouvelle variété. Alors, eux, ils voudraient nous faire payer pour l'utilisation, mais voudraient avoir la gratuité, c'est-à-dire un droit de pillage dans des semences paysannes qui ne sont pas encore sélectionnées, pour pouvoir récupérer du matériel génétique, pour pouvoir améliorer ou détériorer leurs semences, selon le point de vue qu'on a du travail qu'ils font actuellement. Voilà.
Selon Laurent Réversat, l'idée n'est pas de nier l'histoire. Avant l'ère de la financiarisation, les semenciers ont fait de bonnes choses qui ont même fait progresser les semences dans certains cas. Seulement, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du profit immédiat. Et la création d'une variété, d'une nouvelle variété, c'est surtout faire un nouveau matériel que l'on met sur le marché de façon à pouvoir vendre le pesticide qui va avec, à minima, de façon à avoir une variété protégée par un laps de temps, donc à pouvoir se faire des royalties pendant quelques temps. Ceci n'étant pas sa conséquence, bien sûr.
Donc par rapport à ces stratégies-là, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit de moins en moins de nouvelles variétés végétales intéressantes pour les paysans. Voilà. Au-delà de ça, les paysans, certains d'entre eux en tout cas, notamment à travers le réseau Semences Paysannes, se sont réappropriés ce travail de sélection. C'est-à-dire que de la même manière qu'ils ne nous viendraient pas à l'idée de... Moi je suis producteur de lait de brebis, ils ne me viendraient pas à l'idée de faire... élever le renouvellement de mon troupeau par quelqu'un d'autre, et surtout pas par une grosse entreprise. J'élève mes agnels, je les choisis, je sélectionne les mères, voilà, en fonction de mes objectifs de ferme. Eh bien, pour le végétal, on peut faire exactement la même chose, seul ou en collectif à l'échelle d'un territoire. Ce qui a débouché, par exemple, à Millau sur la création de la Maison de la Semence, qui est portée par l'AVEM, l'Association Vétérinaire Éleveur du Millavois, et dans laquelle... on fait de la sélection participative, c'est-à-dire que en lien avec l'INRA notamment, on est en train de développer des populations végétales, fourragères, de Saint-Fouin, de Luzerne, qui nous permettent de répondre à nos attentes en termes de résistance, notamment aux sécheresses multiples que nous sommes en train de traverser. L'AVEM, en fait, ce sont 140 producteurs tous éleveurs de brebis et quelques-uns de vaches. Et donc, on a une problématique commune qui est celle de nourrir nos troupeaux avec des céréales et des fourrages.
Importante initiative qui se crée donc à Millau avec la Maison des Semences. À suivre tout cela. En attendant, ce soir, vous êtes conviés à la Chambre d'agriculture de Rodez pour débattre autour de ce sujet.
Alors, vendredi, donc, après une après-midi récréative, nous nous retrouverons dans les locaux de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron à Rodez avec Guy Kessler, qui est coordonnateur du réseau Semences Paysannes, mais également représentant de la Confédération Paysanne au Haut Conseil aux Biotechnologies, et Yves Mangui, qui est un ancien porte-parole de la Confédération Paysanne, mais qui est également le président de la Coordination Nationale des Semences de Ferme, et moi-même pour une intervention beaucoup plus modeste. Et donc le but de la soirée, c'est de présenter tous les enjeux réglementaires qu'il y a derrière cette loi, et donc son application éventuelle, tous les enjeux réglementaires, tous les enjeux politiques, tous les enjeux stratégiques, comment il est prévu en fait de nous interdire à terme d'utiliser ou de nous en dégoûter, d'utiliser nos semences pour refaire nos cultures. Également, quelque chose de plus positif, c'est de bien montrer l'intérêt des semences paysannes et des semences de ferme, de bien expliquer la différence entre semences paysannes et semences de ferme, et tout l'intérêt et toute la joie et tout le bonheur qu'il y a à travailler autour de ces semences-là.
Laurent Réversat, agriculteur et membre de la Confédération Paysanne, vous donne donc rendez-vous ce soir à 20h30 à la Chambre d'agriculture de Rodez.
Alternabio,
foire aux produits bio, aux énergies alternatives et à l'habitat écologique.
Nicolas Supio est paysan boulanger depuis 18 ans et est installé en Bretagne. Il est membre du réseau Semences Paysannes et utilise près de 200 variétés traditionnelles de blé pour faire son pain.
J'aime mon blé, je le récolte, je fais ma farine et mon pain ou le vin naturel avec. Et voilà, une base de mon travail, c'est de partir du patrimoine des semences paysannes, c'est-à-dire des variétés de pays qu'on arrive à retrouver, que nous ont légué nos ancêtres paysans, pour faire l'agriculture et le pain qui me semble le meilleur, et pour la terre et pour les hommes qui s'en nourrissent.
Et donc justement, dimanche, tu proposes une conférence sur quel thème ?
Et ben le thème, je crois que c'est d'abord de témoigner de cette pratique depuis 18 ans, dans un contexte agricole et au niveau de l'alimentation qui est radicalement différent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut jeter les bases d'un autre rapport à l'agriculture et aussi à l'alimentation, puisque ben voilà, on se nourrit directement du fruit de la terre, et c'est la façon dont la terre est cultivée et la façon dont les plantes poussent conditionne de façon évidente la qualité aussi de ce dont on se nourrit et aussi la qualité de notre relation avec l'écosystème auquel on participe, notre environnement et tout ça. Voilà, donc c'est un peu comment est-ce que dans mon témoignage on peut essayer de jeter les bases d'un nouveau rapport à l'agriculture et à l'alimentation, avec le témoignage autour des céréales, du blé et du pain au levain. Sur les pistes qu'on peut développer pour améliorer la santé des sols par nos pratiques agronomiques et pour améliorer aussi la qualité forcément de ce dont on se nourrit ou de ce qui peut aussi participer à améliorer la santé humaine sans dépendre de toute une logique chimique et industrielle qui nous semble être assez perverse dans ses conséquences.
Nicolas Supio, paysan boulanger en Bretagne, sera l'un des invités d'Alternabio ce dimanche. Sa conférence « Notre bon pain quotidien » aura lieu à 15h. Ladies and gentlemen, nous avons l'honneur de vous présenter Annie fait son cinéma. La chronique culturelle d'Annie Dupluy.
Il y a un plan magnifique dans Clo-Clo lorsque, épuisé, le chanteur torse nu et les bras en croix s'offre à la foule en délire. En voyant le film, je me suis mis à me poser quand même un tas de questions. Sur ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Lui, Claude François, il avait fait office d'idole absolue. Mais il y avait aussi quand même Johnny, Eddie et Gilbert. Il donne le là et sont vite appelés les yéyés. Il faut donc remettre le phénomène Clo-Clo dans cette époque de mutation culturelle et sociologique. Mais on se demande aussi où est le regard du metteur en scène dans le film de Florent Emilio Siri. Alors récemment, Jean-Marie Perrier, toujours à propos de Clo-Clo, Jean-Marie Perrier, donc le photographe star et des stars, confié au Nouvel Obs, en tournée, Claude tenait à ce qu'on dorme ensemble. J'ai passé des nuits entières à l'écouter parler de son enfance égyptienne. Et en nous voyant sortir le matin, les jeunes filles étaient effondrées. Alors cette réputation d'homosexualité encore tabou dans les années 60 est-elle évoquée dans le film ? Non. D'autres questions se pressent. Comment Jérémy Régnier a-t-il pu pousser aussi loin l'identification ? Quelle force a-t-il puisé et où pour le faire se dépasser ? En même temps, Clo-Clo qui disait « J'ai une voix de canard et des jambes arquées » et l'acteur qui donc doit, en s'identifiant, avoir les mêmes défauts. Pourquoi aussi, un quart de siècle, même plus, après sa mort, Claude François suscite-t-il autant de passion et de curiosité ? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un vrai businessman, à racheter le journal Podium, puis un magazine, puis a créé une agence de mannequins. Et pourquoi un type qui a pour modèle Sammy Davis Jr. et James Brown devient-il un chanteur à minette ? Quelle difficulté psychologique le pousse à être odieux avec son entourage et à martyriser Tiki Olgado, qui a longtemps été son secrétaire, et aussi pourquoi manipule-t-il ses fiancés et pourquoi cache-t-il un second enfant alors qu'il en a déjà un ? Peut-on enfin parler de modernité chez un chanteur uniquement parce qu'il se fait refaire le nez, fait du sport et des UV à une époque où c'était rare et c'est devenu chose commune à présent? Bon, bah, bien sûr, j'ai pas toutes les réponses. Hein. J'essaierai peut-être de dire que dans le film écrit par Cyril Erapneau, hein, digne fils de son père, il y a en fait peut-être deux films, les deux d'une durée à peu près semblable. Le premier s'appelle Claude. Et l'on s'étend longtemps sur une enfance difficile, avec un père mutique et alcoolo, une mère présente, castatrice et joueuse à l'occasion. Avec ce choc de devoir quitter l'Égypte. Claude, qui est un vrai musicien, fils respectueux, un frère prévenant, l'archétype du jeune artiste qui veut y arriver et tombe amoureux pour la vie, croit-il de Janet que lui chipera, Monsieur 100 000 vols, alias Gilbert Bécaud. Ça, c'est Claude, à peu près un peu plus d'une heure. Et après, c'est Clo-Clo, un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dur, maniaque, manipulateur, toujours insatisfait, menteur, cruel. L'aventure, tout le monde le sait, se termine par une ampoule revissée et une vie qui s'en va. Dernière question. Était-ce une thérapie ou un devoir de mémoire pour ses deux fils, Claude Junior et Marc, que de produire un tel film ? Target n'a pas eu le succès escompté aux États-Unis, alors que Clo-Clo cartonne en France. Pourtant, Reese Witherspoon est craquante et le film bénéficie de la présence de deux jeunes acteurs qui sont déjà la coqueluche d'Hollywood. Chris Pine, qui a joué dans Star Trek, et Tom Hardy, qui a enchaîné les séries et qui est dans la taupe là, en ce moment, et qui a été aussi dans Inception de Christopher Nolan. Target, donc, c'est la cible. Alors, c'est Lorraine, que deux amis espions vont essayer de conquérir, sachant que la belle leur fera passer des tests, puisque son métier, c'est de tester des produits pour le téléachat. Alors, amateur de courses, poursuites, de gadgets, d'effets spéciaux et de muscles, Target est pour vous. Un dernier point, la cible n'est peut-être pas celle qu'on pense.
Le CD de la semaine. Le CD de la semaine.
Le CD de la semaine.
Sur Radio Saint-Aff.
A Osaka, a Osaka, denaris di fidalgia. Si passo por ella, sofro, si non passo noi dia. Penso nella.
Il y a de la nostalgie dans l'air à Casa Rosada, une chanson du groupe portugais Miroda. Si vous avez encore envie de planer à travers ces chants langoureux et mystérieux, retrouvez ce CD de la semaine sur le site de Radio Sainte-Afrique. Il est temps de se quitter. Merci à Phil et à Jean à la technique. Lundi prochain, il n'y aura pas de matinale. Nous nous retrouvons donc dans 10 jours. En attendant, soyez sages. Mais non, mais qu'est-ce que je raconte ? Ce week-end, il y a le carnaval et Alternabio à Sainte-Afrique. Alors profitez-en, faites plein de belles découvertes et de bêtises. Bon week-end à tous et à tous.